VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de semaine en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson à la une de notre émission.
Ouverture des bureaux de vote au Burundi depuis 4 heures temps universel. Des tirs ont visé cette nuit quelques bureaux de vote. Élections législatives et communales boycottées par l'opposition.
Là où il y a les bureaux de vote, je vis qu'on a amené beaucoup de policiers. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui restent là, qui ne savent pas quel sens avouer.
Autre élection locale hier au Bénin, sans incident, nous dira notre correspondant à Cotonou.
Et nouvelle attaque meurtrière au Mali, une semaine après la signature de l'accord de paix.
Les gens qui pensent déjà que ces accords-là sont des accords qui sont contre leurs intérêts et qui favorisent que le Mali n'a de respect que pour ceux qui prennent des armes.
Dans le reste du monde, les banques grecques resteront fermées une semaine. Plus que jamais, Athènes est proche de sortir de la zone euro.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports. Lekens quitte la sélection tunisienne et la Cédolisi chute dès le début de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Au Burundi, on vote donc aujourd'hui pour les élections locales et législatives. Des tirs nourris ont encore été entendus la nuit dernière dans Bujumbura, la capitale. Plusieurs centres de vote ont été attaqués au Burundi durant la nuit, à Bujumbura et en province. Mais les assaillants ne sont pas parvenus à endommager le matériel électoral, a annoncé la police ce matin. C'est en tout cas un nouveau signe inquiétant pour une élection déjà bien fragilisée. Henri Francisque.
Les bureaux de vote sont ouverts en principe depuis 6 heures du matin, heure locale, et doivent le rester jusqu'à 16 heures. Les électeurs burundais sont appelés à élire 100 députés. Ce scrutin se déroule dans un contexte tendu, puisqu'hier soir encore, des tirs d'origine inconnue ont retenti dans Bujumbura, notamment dans les quartiers de Djabé et Nyakabiga, sans parler des multiples attaques à la grenade de ces dernières semaines. Ces élections sont boycottées par l'opposition, comme en 2010. Quant aux missions d'observation de l'Union africaine et de l'Union européenne, elles se sont retirées, jugeant d'avance le scrutin non crédible. L'Église catholique burundaise s'était elle aussi mise en retrait du processus électoral. Washington, de son côté, a annoncé samedi la suspension de son aide à la CENI. La Commission électorale nationale indépendante contestée par l'opposition affirme de son côté que tout est fin prêt pour les élections. Sur le plan politique, le régime de Pierre Nkurunziza semble un peu plus isolé chaque jour. Au cours du week-end, c'est le président de l'Assemblée nationale, Pi Ntavio Anyumana, s'est réfugié à Bruxelles. Il a appelé le chef de l'État à renoncer à son projet de se représenter lors de la présidentielle du 15 juillet.
Ce scrutin est donc boycotté, comme en 2010, par l'opposition. La société civile burundaise, elle dénonce toujours le forcing du président Pierre Nkurunziza afin de se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat. On écoute Pierre Claverne Bonimpa, le président de la ProDH.
Beaucoup de gens ont peur, ne sait pas comment les élections vont se dérouler. Et je constate que sur les positions là où il y a les bureaux de vote, je vis qu'on a amené beaucoup de policiers. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui restent là, qui ne savent pas quel sens avouer. Ils ont peur. Vous savez que beaucoup de gens ont pris la fuite. Les gens se trouvent au Rwanda, au Ghana. Mais moi, parce que je ne pouvais pas partir, je suis interdit par la justice de sortir. C'est pourquoi je suis resté ici. Ces élections, franchement, n'arrangent pas la population burundaise. Même nous, en tant que société civile, je vois que ce sont des élections erronées.
Pierre Claverne Bonimpa, un des responsables de la société civile burundaise, il était joint par Chérubin Dorsil. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette crise burundaise sur notre site internet voafrique.com.
L'armée malienne s'est positionnée dans la localité de Fakola, près de la frontière ivoirienne. Hier, des présumés djihadistes y auraient fait une brève incursion avec beaucoup de dégâts. Fakola est à 300 km de la capitale, Bamako, et à une vingtaine de kilomètres de la Côte d'Ivoire. On en reparle tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission.
La Tunisie va armer sa police du tourisme suite à l'attaque de Sousse. Un millier d'agents de sécurité supplémentaires vont aussi être déployés pour protéger hôtels, plages et sites touristiques. Après l'attentat contre cet hôtel qui a fait 38 morts, le plus sanglant de l'histoire du pays, alors que plusieurs Britanniques et une Allemande figurent parmi les morts, les ministres de l'Intérieur français, allemands et britanniques sont attendus sur place dans la journée. Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque.
Élections hier au Bénin, les électeurs étaient appelés aux urnes pour les élections communales. Aucun incident majeur, comme l'explique notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
Les municipales, communales et locales, retardées depuis plus de 2 ans, se sont finalement tenues ce dimanche 28 juin 2015 sur toute l'étendue du territoire béninois. Et malgré la pluie qui s'en est mêlée, les opérations ont démarré à l'heure dans la plupart des bureaux de vote visités. La plupart des votants rencontrés sont contents d'avoir accompli leur devoir civique. Pour une fois, ils n'ont pas trop critiqué l'organisation.
Je suis venu voter sous la pluie. C'est bien organisé, c'est bien fait, j'ai rien à redire.
J'ai déjà voté autour de 11h dans une ambiance conviviale. Mes impressions sont très bonnes. Au cours de la campagne, tout le thème a épaté.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
En République centrafricaine, lancement ce lundi des opérations de recensement électoral à Bangui. La cérémonie est prévue dans le 7e arrondissement, où la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, devrait se faire enregistrer.
Au moins 5 personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées samedi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser en périphérie de la ville de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria. Une opération armée lancée en février avec l'aide des pays voisins a permis au Nigeria de reprendre possession de la quasi-totalité des localités du nord-est contrôlées par Boko Haram, mais les attentats n'ont pas cessé pour autant.
Au Burkina Faso, la liste des candidats à la présidentielle continue de s'allonger. Hier, c'est le chef de file de l'opposition durant la dernière phase du régime de Blaise Compaoré, Zéphirin Diabré, qui est entré dans la course.
Et ajoutons que près de 200 migrants burkinabés ont été rapatriés samedi du Gabon, où ils tentaient de s'installer illégalement. Ces migrants qui sont arrivés à bord de 3 quarts ont été accueillis par les autorités burkinabées, avec à leur tête la ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, inquiétude grandissante en Grèce. Après le refus des créanciers de prolonger l'aide financière au-delà du 30 juin, le Premier ministre Alexis Tsipras a annoncé cette nuit la fermeture des banques pour une semaine, ainsi que l'instauration d'un contrôle des capitaux. Les retraits au guichet automatique sont désormais limités en Grèce à 60 euros par jour.
Les banques grecques resteront fermées jusqu'au 6 juillet, soit au lendemain du référendum initié par le gouvernement grec. Et ce dernier développement dans la crise grecque donne déjà des sueurs froides au marché financier. À la mi-journée, la bourse de Tokyo perdait 2,37% et Shanghai moins 5%.
Ici aux États-Unis, le second des 2 meurtriers qui se sont évadés le 6 juin dernier d'une prison de haute sécurité dans le nord de New York a été capturé près de la frontière canadienne. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
La cavale de David Sweat a pris fin dans la ville de Constable, à environ 3 km de la frontière canadienne. L'homme de 35 ans a été blessé par balle hier, 2 jours après la mort de son co-détenu Richard Matt, 49 ans, dans un échange de tirs avec les forces de l'ordre. David Sweat purgeait une peine de réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle pour le meurtre en 2002 de l'adjoint du shérif dans le comté de Broome. Le sénateur Chuck Schumer, représentant l'État de New York au Congrès américain, a déclaré que le fugitif a reçu 2 balles et qu'aucun policier n'a été blessé dans l'incident. Son complice Richard Matt a été tué vendredi près d'une cabane dans le même secteur. Il avait été condamné à un minimum de 25 ans de prison pour le meurtre de son ancien patron. Les autorités américaines avaient mobilisé plus d'un millier d'agents de l'ordre dans la traque de ces 2 meurtriers. C'était la première évasion dans l'histoire du pavillon de haute sécurité de la prison d'Annamora dans le nord de l'État de New York.
Les 2 parlements rivaux libyens ont eu pour la première fois des pourparlers directs hier à Sicrate au Maroc. Cette rencontre sous l'égide de l'ONU n'a cependant pas permis de parvenir à un accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli et l'autre à Tobrouk, dans l'Est.
C'est la fin de ce journal ce matin sur VOA Afrique. Place à présent à la Minute Éco, nous retrouvons Félix Yepasis Zembo.
La République démocratique du Congo va lancer ce mardi 30 juin l'appel d'offres du projet Inga 3 qui consiste à construire un grand barrage hydroélectrique sur le site d'Inga sur le fleuve Congo. Le ministre congolais de l'énergie et des ressources hydrauliques, Jeannot Matadi Nenga, a expliqué que le barrage d'Inga produira plus de 5500 MW d'énergie, de quoi alimenter l'activité minière de la province du Katanga et également les industries sud-africaines, a-t-il affirmé. L'attentat contre un hôtel de Sousse ce vendredi compromet fortement l'espoir pour la Tunisie de renouer cet été avec le tourisme en provenance d'Europe, 3 mois seulement après l'attaque contre le musée du Bardo qui avait tué 21 touristes. Cet attentat est intervenu à quelques jours du lancement de la saison estivale dans un pays où le tourisme représente environ 7% du PIB et quelques 400 000 emplois directs et indirects. Le président Uhuru Kenyatta a appelé les entreprises américaines à s'impliquer dans la mise en place d'un système ferroviaire pour décongestionner les transports à Nairobi. M. Kenyatta s'exprimait à Nairobi au cours d'une rencontre au palais présidentiel avec une délégation commerciale américaine conduite par le secrétaire au transport Anthony Fox. Le président kényan a encouragé les entreprises américaines à développer des liens plus étroits avec le Kenya pour leur permettre de participer à des initiatives mutuellement avantageuses.
Merci Félix pour cette Minute Éco. Élisée Ongpatine nous rejoint pour le journal des sports. Bonjour Élisée.
Bonjour Nicolas.
Et beaucoup de football ce matin. Et d'abord, en Tunisie, le Belge Georges Likens qui quitte son poste de sélectionneur.
Arrivé en mars 2014, confirmé après l'élimination en quart de finale de la dernière CAN, Georges Likens ne dirigera plus les Aigles de Carthage. Des désaccords salariaux seraient à l'origine de son départ. Le Belge n'aurait pas obtenu la revalorisation salariale souhaitée. L'identité de son successeur est inconnue. Pour l'instant, il s'agira d'un étranger, assure tout de même la Fédération tunisienne de football.
Rubrique transfert, la star sénégalaise Dembaba quitte la Turquie pour la Chine.
Direction le Shanghai chinois, Nicolas, pour l'international sénégalais qui évoluait au Beşiktaş. Shanghai chinois où évoluait un certain Didier Drogba il y a quelques saisons. La Turquie perd donc Dembaba, mais accueille Stéphane Mbia. Le Camerounais s'est engagé officiellement avec le Trabzonspor.
Retour sur le continent africain puisqu'on jouait les coupes continentales et notamment la première journée de la Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, début difficile pour le tout-puissant Mazembe dans le groupe A. Les Corbeaux ont été accrochés à domicile par les Soudanais d'Al Hilal. Score du match 0-0. Les Égyptiens de Smouha prennent la tête du groupe après leur victoire de 3-2 face aux Marocains de Tétouan qui menaient tout de même 2-0 à la mi-temps avant de concéder en deuxième période 3 buts en 13 minutes. Dans le groupe B, l'USM Alger a marqué les esprits dans un duel 100% algérien. Le club d'Alger s'est imposé sur la pelouse du tenant du titre, l'Entente de Sétif, 2-1. Un résultat qui le place en tête de ce groupe avec les Soudanais d'Al Merriek, vainqueur la veille du troisième club algérien engagé dans cette compétition, El Elma, 2-0.
On passe à la Coupe de la Confédération. Mauvais départ pour le club congolais des Léopards de Dolisy.
Les Congolais chutent d'entrée. Défait sur le pelouse 1-0 par les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Et toujours dans ce groupe, victoire du Zamalek 1-0 face au club sportif sfaxien. Une réalisation de l'attaquant burkinabé Abdoulaye Cissé. Et puis le match au sommet de cette compétition s'est déroulé dans le groupe A. Le National du Caire qui recevait l'espérant de Tunis de José Anigo. Et au finish, facile victoire de Al Ahly 3-0. Les rouges et blancs sont donc leaders devant l'étoile du Sahel qui a eu raison du stade malien 1-0. Un mot, Nicolas, sur le championnat guinéen de football de la première division avec le classique de la 15e journée qui a tourné donc à l'avantage de l'AS Kaloum, vainqueur de Oroya 1-0, but de Alseni Kamara. L'AS K 3e totalise 26 points à 8 longueurs de Oroya qui a 34 points. Un solide leader.
Et on n'oublie pas le football féminin, la Coupe du Monde qui continue au Canada. On connaît désormais l'affiche des demi-finales.
Ce sera donc une alléchante Allemagne-États-Unis. Un vrai choc, sinon une affiche de finale. Et l'autre affiche, justement, mettra aux prises le Japon, tenant du titre à l'Angleterre, tombeuse du pays hôte, le Canada, 2-1. Et puis Nicolas, un peu plus bas au Chili pour la Copa América en demi-finale, ce sera du classique, enfin, presque. Comme il y a 4 ans, le Brésil ne sera pas dans le dernier carré de cette compétition, puisque battu une nouvelle fois à la même étape par le Paraguay, après la séance des tirs au but 4-3, un but partout après les 90 minutes de jeu. En demi-finale, le Paraguay affrontera donc l'Argentine qui s'est qualifiée en prenant le meilleur sur la Colombie, également au tir au but. L'autre demi-finale se jouera donc entre le pays hôte, le Chili, et le Pérou, la surprise de cette édition.
Merci pour ce journal des sports. C'était Élisée Ongpatine sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Nous l'évoquions dans le journal, le Mali a été victime de deux attaques au cours du week-end. Samedi à Nara, près de la frontière mauritanienne, un accrochage a fait 9 morts du côté des assaillants et 3 soldats maliens sont morts. Hier, c'est à Fakola, localité située dans le cercle de Kalondieba, région de Sikasso. Sur place, des hommes armés ont fait des dégâts énormes, mais il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Ces deux attaques interviennent une semaine seulement après la signature de l'accord de paix. Notre reporter à Bamako fait le point, Kassim Traoré.
L'attaque de Nara qui a fait 12 victimes, dont 3 du côté des soldats maliens, était sans surprise, car la localité de Nara se trouve à côté de la forêt de Ouagadou, sanctuaire des islamistes au Mali. Baye Diakité, conseiller communal à Nara.
5h du matin,
l'attaque a démarré à 5h du matin par des coups de feu nourris vers les camps de Nara. Après, nous avons constaté que c'était des djihadistes à travers leur habillement et leur mode d'attaque. Toute la ville, toute la population était tirée chez elle.
La mairie, le siège d'une caisse d'épargne, la préfecture, les locaux des agents des eaux et forêts et un véhicule de la gendarmerie ont été pillés et brûlés par les bandits armés qui ont attaqué la localité de Fakola dans le cercle de Kolondieba. Oumar Mariko, président du parti Sadi, député élu à Kolondieba.
Il y a beaucoup d'interprétations de l'accord. Cela peut être un facteur. Les gens qui veulent qu'ils soient pris en compte, qui pensent déjà que ces accords-là sont des accords qui sont contre leurs intérêts et qui favorisent que le Mali n'a de respect que pour ceux qui prennent des armes. Parce que dans tout le pays entier, ce qui est constatable, c'est que l'État joue dans la plus grande injustice.
Hassan Agmeidi, dit Jimmy Lex Rebel, secrétaire général du Front Populaire de l'Azawad, FPA.
Que l'on construise quelque chose sur une réalité. Nous sommes en train de bâtir un pays que nous tous nous avons mis à genoux. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le rebâtir, il faut le rebâtir sur la réalité, c'est du vrai et du concret, pas du faux. Il ne faut pas une fondation de poudre, mais une fondation de fer, d'acier, d'éviter tout ce qui nous arrive chaque 10 ans, chaque 5 ans, chaque 20 ans. Nous sommes dans l'obligation de transporter nos bagages. Nous en avons marre et nous nous rentrons dans quelque chose de clair.
D'après le député de Kolondieba, Dr Oumar Mariko, ces deux attaques ne doivent pas mettre en cause la sincérité des acteurs de la CMA qui ont signé l'accord pour la paix et la réconciliation il y a une semaine à Bamako. Après leur forfait, les bandits les armées ont quitté la localité de Fakola. C'est après que les militaires maliens sont arrivés sur place afin de rassurer les populations. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, sans surprise, l'opposition et la mouvance présidentielle n'ont pas réussi à rapprocher leur position sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Les représentants de l'opposition n'ont pas obtenu l'accord sur la recomposition des membres de la CENI. Ils se sont donc retirés du dialogue, comme nous l'explique notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
À peine démarré, le dialogue s'arrête au 8e jour. L'opposition et la mouvance se sont quittés vendredi sans trouver de consensus sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. La délégation de l'opposition au dialogue a proposé sans succès que 7 de ses représentants à la CENI soient remplacés. Elle suspend sa participation, estimant que le dialogue n'avance pas. Son porte-parole parle même de mépris. Aboubakar Sylla accuse la mouvance présidentielle.
Nous avons épuisé 4 points de l'ordre du jour et des points extrêmement importants. Aucun consensus n'a pu être trouvé sur aucun des points. Pire, la mouvance présidentielle ne fait que faire de l'obstruction, ne fait que faire du blocage, rejette systématiquement nos demandes. C'est un dialogue où la mouvance présidentielle fait preuve d'une arrogance et d'un mépris souverain. Il ne s'agit donc pas d'un dialogue.
Bien sûr qu'il s'agit d'un dialogue, a répliqué la mouvance présidentielle. Son porte-parole accuse à son tour l'opposition de mauvaise foi. Avec ironie, Amadou Damarou Camara explique.
On dit de recomposer la CENI et qu'ils ne sont plus représentés. Il y a 7 des commissaires qui doivent être changés. On veut aller aux élections le 30 août, dans 68 jours. On veut changer la CENI maintenant. On veut aller aux élections présidentielles dans 90 jours ou 100 jours. On veut changer de CENI maintenant. Alors, la mauvaise foi était manifeste.
Le dialogue est suspendu, mais les organisateurs ne semblent pas perdre espoir. Le ministre guinéen de la Justice, président du cadre du dialogue, annonce la reprise des discussions cette semaine. Cheikh Sako.
On a essayé de rapprocher les points de vue, puisque nous, on assure la neutralité dans ce dialogue, moi et mes collègues du gouvernement. On n'y est pas arrivé, donc j'ai suspendu la séance. On est condamné à dialoguer dans ce pays. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Tant pis pour les apprentis sorciers.
L'opposition avait proposé la date du 30 août pour la tenue des élections communales et le chef du département communication de la CENI de répondre. On n'a aucune idée sur le corps électoral. Comment voulez-vous qu'on fixe la date sans ce document, s'interroge-t-il. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Au Gabon, les médecins du public et du privé poursuivent leur grève. Déjà 3 semaines que ce mouvement a démarré en solidarité avec un médecin incarcéré après le décès de l'une de ses patientes suite à une césarienne. Pour mettre la pression sur le gouvernement, les médecins observent une grève générale illimitée. Conséquence, tous les hôpitaux publics et privés du pays sont fermés. Notre correspondant au Gabon, Jean-Revis Dabani, s'est rendu dans le plus grand hôpital de la capitale gabonaise, Libreville, le centre hospitalier universitaire. Reportage.
Je suis là, je vois les patients arriver, puis on les refoule.
D'accord,
je
sais pas et pourquoi. Vous croyez que vous serez reçu?
Je ne sais pas, je vais essayer de tenter pour voir, on ne sait jamais. Sauf que avoir le lieu, le cadre, il n'y a personne, on dirait.
Comme d'autres patients, Juscelin Awefege, assis à l'entrée de l'hôpital, attend patiemment pour présenter son bébé à un pédiatre. Après plusieurs heures d'attente, il a dû rebrousser chemin. Une grève des médecins entraîne depuis 3 semaines la quasi-paralysie des hôpitaux du Gabon. Quelques-uns des principaux hôpitaux du pays renvoient les malades chez eux en raison des mouvements de grève observés par les médecins, solidaires de leurs collègues, le docteur Maxi Filay Croué à la prison centrale de Libreville, suite à une plainte déposée par la famille d'une patiente décédée après une césarienne pratiquée dans sa clinique privée. Au centre hospitalier universitaire CHU, seuls les soins essentiels sont assurés. Roselyne, une réceptionniste qui refuse de donner son identité pour éviter des représailles, affirme que l'hôpital ne prévoit plus de consultations depuis le début de cette grève.
Ici à l'accueil, nous recevons les malades, mais quand on les oriente chez les médecins, il n'y a personne pour les recevoir. Les médecins ne consultent pas. Donc, ils sont obligés de repartir. Ce n'est pas nous qui consultons, ce n'est pas tout l'hôpital qui est en grève, c'est les médecins.
Dans la vaste cour de cet hôpital, habituellement animé, la plupart des bancs sont vides. Seuls les patients les plus malades se donnent encore la peine de venir dans l'espoir de voir un médecin. Les autres patients ont renoncé et restent chez eux. Juscelin est l'un de nombreux Gabonais qui subissent les conséquences de la grève des médecins. Assis sur une banquette à l'entrée de la maternité, partiellement restructurée, Laure, sage-femme, dit comprendre la colère des médecins.
Oui, on comprend la position des médecins. Parce qu'aujourd'hui, c'est le médecin. Demain, ça peut être aussi une sage-femme ou encore même une, la fille de salle. Hein, parce que c'est le travail à la chaîne.
Le CHU est resté ouvert grâce à la réquisition des infirmiers. Les médecins, dont beaucoup gagnent en moyenne 500 000 francs CFA, réclament également l'augmentation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le docteur Stéphanie Loco est le porte-parole des grévistes.
C'est quoi le problème? Un monsieur qui a opéré une femme, qui a césarisé une femme, qui a sauvé 3 vies, et in fine, 3 jours après, l'une des 3 vies est morte, a été perdue. Même si on doit condamner cet homme-là, il faut quand même trouver des circonstances atténuantes. Est-ce que docteur Fila a été déjà jugé? Si docteur Fila a été jugé, vous savez qu'il y a des voies de recours. Mais qu'on juge docteur Fila, qu'on le condamne même, pour que nous revenions par la suite pour faire le recours, pourquoi pas?
Les pourparlers entre le gouvernement et les grévistes ont abouti à une impasse. Le président Ali Bongo, critiqué pour sa gestion sur les questions sociales, avait indiqué il y a un an que beaucoup avait été fait pour les médecins. À Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Parlons à présent de cette bonne nouvelle pour l'économie centrafricaine. Après 2 années d'âpres négociations, l'embargo sur le diamant centrafricain a été partiellement levé. L'annonce a été faite officiellement à Luanda par le président en exercice du processus de Kimberley, l'Angolais Bernardo Campos. Une bouffée d'oxygène pour la RCA qui va désormais redynamiser son secteur minier, mis à mal par le conflit qui a secoué le pays depuis mars 2013. Félix Yepassi Zembrou a joint Maxime Kazagi à la tête de la délégation centrafricaine à la réunion de Luanda.
Cela fait 2 ans que nous sommes sous suspension pour des raisons qui étaient tout à fait fondées, puisque le processus combat les diamants de conflit. Et ce cas de figure a bien changé, cette situation a bien changé depuis longtemps, en tout cas sur une bonne partie de notre territoire. La paix s'installe, revient, Nous avons une situation où, particulièrement toute la zone ouest de notre pays est libre de toute situation difficile. Il en est de même progressivement sur toute la zone centrale et est. C'est ce que nous avons mis en avant. Bien sûr, c'est une bouffée d'oxygène. Nous exportons en général 2 ou moins 1 000 carats de diamants pour une valeur de 60 millions de dollars. Sur le cas, perçoit des taxes, mais surtout, à partir desquelles une bonne partie de la population centrafricaine vit. Et bien entendu, ça va de relancer l'économie et venir aider un peu le bois qui était source de revenus à l'exportation. Et le diamant reprendra progressivement sa place traditionnelle. Et cela va soulager pour payer les salaires, pour investir. Et bien entendu, cela fera revenir des investisseurs dans le pays.
Monsieur Maxime Kazaghi, ces négociations ont duré 2 ans. Comment elles ont été menées, ces négociations?
Tous les pays qui sont impliqués dans le diamant se retrouvent là et discutent des enjeux du processus de Kimberley. Nous avons présenté une feuille de route. C'était très difficile. Il fallait vraiment qu'on donne des garanties. C'est une levée encadrée, pas conditionnée. Ça veut dire qu'on n'attend pas qu'on résolve ces conditions, mais on lève et on rentre dans les conditions. On va faire en sorte que les diamants de l'Est ne contaminent pas ceux de l'Ouest. On va faire en sorte qu'on puisse bien identifier. On va d'abord faire l'audit des diamants qui sont stockés. Donc, c'est encadré, mais c'est une levée effective.
Maxime Kazaghi, président du processus de Kimberley pour la Centrafrique. Enfin, parlons du mois de Ramadan pour tous les musulmans qui nous écoutent. Partons à Gao, au Mali. Sur place, les prix de certains produits de première nécessité ont connu une forte hausse, ce qui dérange fortement les populations, comme l'a constaté Boubacar Touré.
Presque tous les produits de première nécessité connaissent une augmentation, comme le signale la Madame Aissata Idrissa, ménagère à Farangiré, que nous avons rencontrée au marché de Sosokoira.
Vraiment, le marché est dur, c'est très dur, vraiment. La viande, c'est cher, l'igname aussi, c'est cher, les haricots aussi. Le marché, quand même, c'est tellement cher.
Ainsi, le kilogramme de pommes de terre passe de 600 à 700 francs CFA, le kilogramme d'oignons de 150 à 300 francs, le kilogramme d'igname de 400 francs à 500 francs. Le carburant aussi connaît une augmentation, il passe de 500 francs le litre à 650 francs à la pompe. Sauf l'huile vendue à 750 francs le litre, le paquet de lait à 1250 francs et le kilogramme de sucre à 500 francs n'ont pas connu de hausse. Au marché Damien Boiteux, le kilogramme de viande sans os passe de 2000 francs à 3000 francs. Au marché de volaille, les prix varient entre 2500 et 4000 francs CFA. Pourquoi donc cette hausse des prix? Certains occupants des marchés de Gao nous expliquent les raisons.
On ne sait pas, nous les petits commerçants, là, nous, c'est les gens qui nous donnent. Si les gens augmentent, il faut qu'on augmente. Si les gens descendent, il faut qu'on descende.
Le marché est dur parce que là où on achète les marchandises pour amener à Gao, c'est là-bas qu'ils sont durs parce qu'on avait augmenté au transport. Le transport, c'est 20 000. C'est pour cela que le prix aussi, on avait ajouté un peu là-dessus pour avoir au moins ton argent.
Ce n'est pas la viande qui est chère, c'est les animaux qui sont chers. La viande qu'on voit à 3 000 francs là, ça c'est la viande de la chair seulement. C'est avec os qu'on vend ça à 2 500. Tu as vu? Sinon, ce n'est pas la viande qui est chère, c'est le bémol qui est cher.
En tout cas, en ce mois béni de Ramadan, les populations de Gao qui portent encore les séquelles de l'occupation invitent les commerçants à faire une réduction sur les prix, d'où cet appel de Madame Halimatou Sissé, ménagère au château.
La vie de Gao est très dure, hein. Vraiment. Les gens sont vraiment fatigués. Tout le monde crie, ça ne va pas partout. Tout avec le mois de carême, la fête qui s'approche, c'est pas facile.
Je demande vraiment d'avoir pitié à la population, vraiment de voir comment ils peuvent réduire le prix pour que la population puisse mieux vivre.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et ainsi va le Monde. Aujourd'hui, la mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pineau à la présentation. Excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Abdelkarim Brahim Oumar, N'Djamena au Tchad, et Cédric Kalima à Lubumbashi, c'est au Katanga, en République démocratique du Congo. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.